podcasts de Radio Vatican.
61 assassinats liés au conflit agraire en 2016 au Brésil. C'est le chiffre alarmant du rapport annuel sur les violences rurales publié par la Commission pastorale de la Terre de l'Église brésilienne au début de l'année 2017. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis 13 ans. Grands propriétaires terriens contre petits paysans, agro-industrie contre indigènes et militants écologistes. La majorité des exactions se concentre en Amazonie, dans le nord du Brésil, zone où de nombreuses terres sont encore à prendre. Et depuis des dizaines d'années, les victimes d'assassinats ou d'agressions, les menaces de mort et les arrestations ne font qu'augmenter. Hervé Théry est géographe spécialiste du Brésil, ancien chercheur au CNRS et professeur à l'université de Sao Paulo. Il nous explique les facteurs de cette augmentation des violences agraires au Brésil.
Alors, d'une année sur l'autre, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, il y a des tensions particulières, en particulier dans le nord, en Amazonie, mais ce qui est inquiétant, c'est que ça dure comme ça depuis 50 ans. En fait, la Commission pastorale de la Terre tient des statistiques très précises depuis 62, si je ne me trompe pas, du nombre d'assassinats dans des conflits ruraux, de menaces de mort, toutes sortes d'exactions. Il y a des milliers de cas. On est en train de terminer un atlas du Brésil où on a fait une cartographie de ça. Il y a des assassinats comme ça partout au Brésil. C'est pas spécifiquement. Il y a des régions de concentration, mais il y en a partout. Et je lis tous les matins la Folha de São Paulo. Et il y a encore eu 5 morts dans le Mato Grosso. C'est-à-dire des hommes de main de propriétaires, on en est presque sûr, sont entrés dans une communauté et ont tué à coups de revolver 5 personnes, dont des femmes et des enfants. Je regardais la distance. Là, l'endroit où ça s'est passé, les 5 morts, c'est Colnizas. C'est à 1065 km au nord de Cuiabá. Et Cuiabá est déjà à 1300 km de São Paulo. Vous voyez, on est à l'intérieur du même pays, mais c'est à très 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 loin. Et avec des voies d'accès précaires et une présence de police très 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 large forcément. Donc la pointe de cette année, on peut se demander pourquoi, mais c'est surtout une toile de fond qui est toujours celle-là. C'est vraiment une sorte de Far West où ce genre de choses est très fréquent.
Et alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation au cours des dizaines d'années, depuis en tout cas que la commission pastorale chiffre ces violences?
Ben en fait, c'est la lutte pour la terre. C'est des régions qui sont très lointaines, très peu connues, où la présence de l'État est très faible et où chacun essaie de se tailler des terres les plus larges possibles, au besoin en utilisant la violence. C'est assez fréquent. Quand je faisais ma thèse il y a longtemps, en 74, j'étais dans un bus avec, je parlais avec mon voisin, et qui était un propriétaire foncier. Il dit oui, j'ai des terres là-bas. J'étais à presque une journée de route encore de là où on allait. Il dit oui, j'ai des terres par là, donc j'ai essayé d'occuper jusqu'à la vallée, mon voisin aussi, donc on s'est fâché. Il a envoyé ses gars avec des fusils, moi aussi, donc ça tourne assez mal. Mais là, j'étais à Brasilia, on s'est rencontrés, on s'est saoulé la gueule ensemble, on est copains comme cochons maintenant. Donc, faut que je rentre pour prévenir les gars qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Mais c'était le genre de choses qui se produisaient. Enfin bon, suffit de se reporter à ce qu'on a tous vu dans les westerns, c'est l'Ouest américain tous les jours.
Quelles sont les batailles entre qui et qui? Est-ce qu'il y a ces violences particulièrement? Là, vous en citiez un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui expliquent l'augmentation de ces conflits et de ces assassinats?
Il peut y avoir un facteur, c'est qu'il y a un durcissement un peu des lois maintenant sur la propriété de la terre, qui vont passer par des mesures un peu plus rigoureuses, qui ne seraient pas plus mal. Mais du coup, il se peut qu'il y ait une espèce de ruée avant que la loi ne soit mise en place, pour essayer de se tailler un empire le plus large possible ou des terres les plus larges possibles. Le plus fréquent, c'est quand même, et c'est ce qui s'est passé là dans le Mato Grosso, c'est des gros propriétaires qui essaient de se débarrasser des petits occupants sans titre, qui étaient souvent là avant, mais qui les gênent pour leur expansion. En plus, en les expulsant, on récupère des terres déjà défrichées. Donc c'est quand même ça le plus fréquent. C'est les conflits de petits propriétaires entre eux, ça peut arriver. Avec les Indiens, ça arrive. Mais c'est quand même plutôt les gros qui essaient de dégager le terrain pour mettre leur bétail principalement.
Et sur les terres aussi des indigènes?
Ça arrive, oui. Là, je lisais deux articles qui expliquent que le service de protection des Indiens est obligé, pour restriction budgétaire, de retirer des agents sur le terrain. Et ça les embête beaucoup parce qu'il y a un endroit où il y a 5000 chercheurs d'or qui sont installés sur une terre indienne. Évidemment, ça va provoquer forcément des bagarres entre eux d'une part pour le contrôle des gisements. et avec les Indiens. Ça arrive aussi assez fréquemment.
Justement, autour de ces conflits, qu'est-ce qui est fait de la part des autorités locales, mais aussi brésiliennes en général ?
Il y a un cas qu'on a étudié, puisqu'on a même fait un travail assez précis sur l'esclavage rural. Là, du coup, il y a des patrouilles spécifiques qui sont envoyées pour essayer de libérer les gens qui sont dans des situations de quasi-esclavage. Donc là, il y a vraiment une politique. Sur la répression des violences foncières, c'est le travail banal de la police et qui est quand même très, très distante, qui est souvent corrompue. Donc là, il y a en principe dans la loi, c'est évidemment interdit d'aller assassiner ses voisins, mais il n'y a pas d'action très spécifique. Et puis les gros propriétaires ont quand même un poids politique, économique et tout dans ces régions très lointaines. Donc c'est quasiment l'impunité. On arrive de temps en temps à attraper et à condamner les exécutants, mais très rarement les gens qui donnent les ordres. Ça touche en particulier les religieux étrangers. Il y a très souvent dans ces coins perdus, les gens qui essaient de défendre des prisons, ce sont souvent des religieux étrangers. Il y a quelques années, il y a une religieuse américaine, s'appelait Dorothy Stang, qui a été tuée dans les mêmes circonstances parce qu'elle défendait les paysans.
Et ça, c'est le cas des assassinats de militants écologistes, de défenseurs des droits des paysans.
C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle ici le mouvement socio-écologique. C'est les gens qui défendent à la fois la nature et les paysans. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que c'est la même chose, que ceux qui déboisent, c'est surtout les gros, c'est exact. Et donc, ils défendent à la fois les petits paysans qui essaient d'avoir un petit bout de terre pour survivre et nourrir leurs enfants, face aux gros qui veulent faire surtout de l'élevage pour la viande d'exportation principalement.
Et ces violences ne font pas réagir plus que ça le gouvernement. Il y a eu des réformes agraires qui ont été en tout cas tentées d'être mises en place par les gouvernements successifs. Aujourd'hui, où ça en est de cette démocratisation de la terre ?
En fait, il n'y a jamais vraiment eu de réforme agraire. Il y a la politique alternative, c'est donner des terres aux sans-terres. En donnant dans des zones vides, dans des zones qu'on arrive à exproprier, on ne divise jamais les grandes propriétés, sauf si elles sont déjà envahies par des paysans. Et même comme ça, très peu. Donc il y a même des gens qui disent que c'est plutôt une contre-réforme agraire qu'une réforme agraire. On calme les gens en leur donnant des terres, mais souvent dans des coins extrêmement éloignés, qui les mettent en conflit avec des gens qui visent les mêmes terres. Donc il n'y a pas vraiment de politique dans ce domaine-là, ça. Il faut rappeler que le Brésil a tous les ans entre 45 000 et 50 000, et parfois même plus, morts par homicide dans l'année. C'est à peu près le niveau de la Syrie, enfin, c'est plus que la Colombie. C'est un pays quand même qui est très cordial, très chaleureux, tout ce qu'on veut, mais qui, quand ça commence à aller mal, va très vite vers la violence. Un peu comme les États-Unis, d'ailleurs, c'est pas spécifique au Brésil. Et donc, par rapport à 50-60 000 morts par an, quelques centaines de paysans dans des zones lointaines, donc ça n'émeut pas beaucoup l'opinion.
Je regardais les chiffres de ces violences et de la commission pastorale de la terre. En gros, depuis les années 80, il semble que ces violences se concentrent aux alentours de l'Amazonie. Comment est-ce qu'on explique cette zone ?
C'est là qu'il y a des terres à occuper. Dans le reste du pays, plus au sud, la situation est quand même déjà à peu près établie. Il y a quelques invasions, il y a quelques affrontements, mais qui donnent rarement mort d'homme. Par contre, sur la frontière pionnière, on appelle ça le croissant du déboisement. Ça prend le Brésil en travers d'est en ouest, sur les bords sud et est de l'Amazonie. Là, il y a un front pionnier qui avance, donc il prend tous les ans des terres nouvelles, des frichets. Et les gens qui arrivent sont nombreux et en concurrence entre eux. Et donc la concurrence entre eux, surtout entre les gros et les petits, provoque ces situations. Effectivement, c'est dans ces zones-là que c'est le plus dangereux.
Comment ça se fait que la situation dégénère au point d'arriver à l'assassinat et que finalement les conflits soient réglés par les propriétaires terriens eux-mêmes ou en tout cas leurs hommes de main ?
D'abord, le cadastre est très mal fichu au Brésil. Il est entre les mains de l'équivalent des notaires. Donc c'est pas public, c'est pas unifié. Et donc on peut avoir de bonne foi des gens qui ont déposé des demandes de terres. On peut demander des terres publiques. Il y a 14 façons différentes de demander des terres publiques. Une fois qu'on les a délimitées et déclarées, ça y est, c'est à vous. Mais les petits n'ont pas les moyens de faire ça. Donc ils prennent un bout de forêt, ils défrichent, ils s'installent et ils sont là sans titre. Et donc les gens qui arrivent après, qui ont plus de moyens, parfois ils n'ont pas plus de titres que les autres, parfois ils en ont, parfois ils ont des faux titres. Mais ils commencent par les intimider en disant « t'es sur mes terres, va-t'en ». Puis ils font pression, et puis si ça bouge pas, ils envoient les hommes de main. C'est assez facile.
Quelle serait selon vous la solution pour limiter ce type de conflit agraire ?
Je pense qu'il faut déjà avoir une définition plus précise des droits sur la terre, que justement on puisse dire clairement ces 4 hectares-là qui vont d'ici à là, avec un GPS, maintenant c'est assez facile de dire ça, c'est déclaré, c'est à moi. Ça pourrait peut-être freiner un peu l'ardeur des envahisseurs de savoir qu'il y a une situation légale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis probablement il faudrait avoir plus de gens armés, enfin de police armée sur le terrain, réduire le pouvoir des propriétaires, mais c'est quand même un pays qui est dominé par la grande propriété depuis le début, pratiquement. Depuis que les Portugais sont arrivés, c'est quand même une terre qui est entre les mains, surtout dans les régions reculées, des grands propriétaires. Bon, certains sont des gens honnêtes, font leur boulot sans plus, mais il y a quand même pas mal de flibustiers qui sont responsables de ce genre de violence.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.